Pour cette dernière prédication, je vous propose un petit peu d'inverser les rôles. Jusqu'à présent, nous avons considéré moi et ma maison comme une réalité personnelle. C'est juste, c'est bien, mais arrêtons-nous un instant et imaginons que Dieu dise la même chose. Oui, que Dieu dise, par exemple, « Moi et ma maison, nous servirons l'humanité. » Ça change de « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Alors prenons cette parole que vous ne trouverez pas dans la Bible, hein, c'est l'évangile de Jean-Jacques. « Moi et ma maison, dit Dieu, nous servirons l'Éternel, nous servirons l'humanité. » Quelles en seraient les conséquences ? En ce sens, la maison de Dieu n'est pas un lieu spécifique comme votre maison, que ce soit une villa, un appartement, un studio ou une simple chambre. Non, la maison de Dieu depuis la première Pentecôte n'est plus un bâtiment, mais des personnes qui ont décidé de donner leur vie à Dieu et de vivre d'une façon différente qu'était leur vie d'avant. Et le petit papier bleu que vous avez en main vous parle d'un verset qui se trouve dans Éphésiens 2, au chapitre 2, le verset 19, Éphésiens 2, 19, qui dit ceci, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Et le verset 22, comme en écho, dira ceci, « En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. » J'aime bien ce verset 19. Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors. Non, nous ne sommes plus dehors, hors du plan de Dieu pour nous, hors de la vraie vie, mais nous sommes dedans. Nous sommes rentrés dans le plan que Dieu a pour nous. Nous sommes rentrés dans sa maison. Et sa maison, c'est nous. C'est l'ensemble des croyants réconciliés avec Jésus. C'est l'Église, un édifice non construit avec des briques et du ciment, mais construit avec des pierres vivantes, des personnes sanctifiées par Jésus, comme vous, comme moi. Nous sommes sa maison. Franchement, ce serait quand même bien triste si la maison de Dieu était le bâtiment dans lequel on est réunis maintenant. 3 heures d'occupation par semaine, c'est juste un petit 2%. Ça ne fait pas quand même grand-chose. Non, la maison de Dieu, c'est bien vous et moi. Ne nous trompons pas de regard. Regardez autour de vous. Vous êtes la maison de Dieu. Et la bonne nouvelle, pour aujourd'hui, en tout cas une des bonnes nouvelles, c'est que Dieu nous a qualifiés. Absolument, il nous a qualifiés, non pas pour être des assis cachés dans une salle de réunion, mais pour être des debout, témoignant dans le monde comme celle et lumière de la terre. Moi et ma maison, dit Dieu, allons-y, nous servirons Yverdon. Imaginez que Dieu dise ceci, « Moi et ma maison, nous servirons les habitants de cette région. » Alors ces paroles peuvent peut-être faire écho à un verset que vous connaissez dans l'Ancien Testament. Il dit « Mais je me souviens qu'il est écrit quelque chose comme ça dans le livre, je crois, de Jérémie, chapitre 29. » Et je vais vous dire bravo, vous connaissez bien votre Bible. Alors lisons ce verset 7 de Jérémie 29, c'est bien ça, vous avez bien raison. Il est dit ceci, « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. » Jérémie 29, verset 7, « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité » et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Déjà, dans l'Ancien Testament, la volonté de Dieu était que son peuple prie et qu'il prie en faveur de la ville où il se trouvait, quand bien même ce peuple était captif, c'est-à-dire prisonnier, comme c'est le cas dans le contexte de ces quelques versets. À combien plus forte raison nous, aujourd'hui, nous sommes appelés à le faire? D'abord parce que c'est nous qui avons choisi le lieu où nous habitons. Ensuite, parce que en Jésus-Christ, nous avons toute la révélation que Dieu voulait faire aux hommes. Et enfin, parce que Jésus lui-même nous demande d'aller au dehors. La moisson est grande, dira-t-il. Prier pour le bien de la ville, c'est peut-être le secret ou un des secrets de Dieu pour que son peuple soit heureux, finalement, si je lis ce que ce verset veut dire. En effet, en priant de cette façon, Dieu va intervenir, bénir les habitants, à tel point qu'ils soient heureux. C'est un beau programme. Franchement, c'est un beau programme. En d'autres termes, Dieu disait ceci aux Juifs, ces Juifs qui étaient déportés, qui étaient donc prisonniers. Il leur dit, vous allez rester ici un bon moment. Alors, intéressez-vous à ce que font les habitants. Passez du temps avec eux. Ne restez pas entre vous. Recherchez leur bonheur. Qu'ils disent que grâce à vous, la vie est meilleure. Car votre bonheur dépend du leur. On peut dire amen ? Bien. Quand Dieu dit « Moi et ma maison, nous servirons Yverdon », il nous dit « Vous allez être ici un bon moment. Alors, intéressez-vous à ce que font les Yverdonois. Passez du temps avec eux. Ne restez pas entre vous. Recherchez leur bonheur. Qu'ils disent de vous, grâce à eux, notre vie est meilleure. Car leur bonheur, finalement, dépend du vôtre. C'est drôle, hein, quand on met les choses directement d'une façon qui nous concerne. Si l'escale devait quitter ses locaux, bon, ça serait quand même dommage maintenant, avec tous les travaux qu'on a faits qui sont presque terminés. Mais si l'escale devait quitter ses locaux, est-ce que les habitants du quartier verraient la différence? Ou est-ce que ce départ serait fait dans l'indifférence générale et réciproque? Si vous deviez déménager, est-ce que vos voisins proches verraient la différence? Où ce déménagement serait-il fait dans l'indifférence réciproque? Évidemment, que vous soyez là ou pas, ça ne change rien. C'est terrible, franchement. Et Dieu dit à son peuple, priez pour le bien de la ville, car votre bonheur dépend du sien. Laissez-moi vous raconter une aventure véridique qu'une connaissance a vécue en Inde, alors qu'il se baladait dans un marché populaire. Alors je vous donne le contexte. Sans l'odeur, les vendeurs sont au milieu d'une rue, en train de demander aux gens d'acheter leurs marchandises, et de chaque côté de la rue, assis sur des bancs, des dizaines de lépreux qui font l'aumône et qui tendent les bras vers les touristes. Vous imaginez la scène? Alors cet homme, prudemment, marche au milieu en faisant attention de ne pas trop s'approcher des lépreux. Quand soudain, il voit s'avancer vers lui quelques vaches sacrées. cause de la foule, il ne peut pas reculer. Il sent qu'il devra croiser ses vaches. Il blanchit un peu, rentre son ventre, c'est un touriste, frôle les vaches, de peur de s'aventurer trop près des lépreux qui toujours tendent les bras, et réussit l'épreuve avec quelques sueurs. Ouf, il a passé, enfin, elles ont passé. À peine qu'il se remet de ses émotions, qu'à quelques mètres de lui, il voit arriver un éléphant. Il est pris de panique. L'éléphant se rapproche de plus en plus et il hésite à faire ce que tous les Indiens font. Il se colle les lépreux pour éviter l'éléphant. Pour lui, le choix est difficile. L'éléphant, les lépreux, l'éléphant, les lépreux, soit mourir tout de suite écrasé, soit mourir dans quelques mois rongé par la lèpre. L'instinct de conservation l'emporte. Et complètement terrorisé, il choisit les lépreux et se colle à eux pour éviter l'éléphant. Ceux-ci ne se gênent pas de le toucher, les mains, le visage, son corps. Ça y est, ça ne fait aucun doute, il est contaminé. Il est devenu un mort en sursis. Et quand il me racontait ça, je le voyais, c'était vraiment, il le vivait toujours. De retour au pays, il habitait l'Allemagne, et pendant 3 mois, il s'est fait contrôler par des médecins, examiné par d'autres. Il s'est fait encore réexaminer par des médecins, encore réexaminer par d'autres, contrôler. Le diagnostic, pas la moindre présence de lèpre dans son corps. Yes, il a survécu. Et vous vous dites peut-être, mais attendez, pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire ? Merci. Parce qu'il me semble que nous faisons la même chose avec les non-chrétiens. Nous les évitons parfois, nous les ignorons souvent, et qu'ensuite, à des circonstances particulières, un éléphant qui arrive dans notre vie, on est peut-être un petit peu obligé à nous frotter un peu à eux. Et on croit qu'ils vont nous contaminer. On croit que nous allons perdre notre pureté. On croit que nous allons mourir. Vite, 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 retournons à l'église. Bon, j'exagère, bien sûr, j'exagère. Mais notre indifférence à la souffrance spirituelle dans notre entourage est quand même bien présente dans notre cœur, non ? Où sommes-nous le sel de la terre ? Quand sommes-nous cette lumière du monde que Jésus désire que nous soyons ? Et dans le livre de Jérémie, le remède de Dieu à cette indifférence, c'est l'action. Et Dieu est un Dieu d'action, mais ce n'est pas un Dieu qui veut faire tout seul le travail. Il nous a pris comme co-ouvriers avec lui, et c'est pourquoi il nous dit aujourd'hui, moi et ma maison, nous allons entrer en action. Nous allons servir, servir, servir. Nous allons nous mettre en action, moi et ma maison, nous servirons Yverdon. Et on l'a bien compris, sa maison, c'est nous. Alors le service Pâques est l'occasion idéale pour servir la ville. Parents, inscrivez vos enfants. Il y a des programmes pour notre église, des enfants de 8 à 22 ans. Alors allez-y, inscrivez vos enfants, il y a vraiment des choses extraordinaires qui vont se vivre, mais inscrivez-vous également pour les encadrer, pour bénir la vie avec eux. Mieux, je vous propose un nouveau projet, ça va faire plaisir à Fabien. Pour entrer dans cette dimension de Jérémie 27, 29, 7, Je vous propose un nouveau projet. Pendant le service Pâques, pourquoi est-ce que vous ne viendriez pas à plusieurs, régulièrement, dans ces lieux, pour prier, pour intercéder pour ceux qui vont servir leurs voisins? Venez prier pour que les jeunes qui vont faire du porte-à-porte ou qui vont rencontrer les gens aient de la hardiesse. Venez prier pour que les cœurs se tournent vers Dieu, que les quartiers, les portes des quartiers s'ouvrent. Venez prier pour que, ensemble, la maison de Dieu puisse servir, puisse entrer en action, puisse bénir le lieu dans lequel on se trouve. Alors je vais peut-être lancer un appel en l'air, mais est-ce qu'il y a des intéressés ? Réfléchissez, parce que je pense que ce serait une excellente idée que ceux qui sont plus mûrs dans la foi puissent supporter, comme Hur et Aaron, des jeunes qui sont soit en train d'intercéder ou soit dans la plaine pour se battre, pour combattre spirituellement. Et nous avons besoin de toutes les forces, parce que l'évangélisation, c'est un combat spirituel. Et on ne peut pas simplement laisser nos jeunes aller combattre sans que nous en soyons aussi responsables. Recherchez le bien d'Yverdon, où je vous ai placé, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Je me réjouis de ce temps de Pâques pour toutes les belles choses que nous allons y vivre et pour toutes celles que nous allons y vivre après, parce que le camp de Pâques n'est pas une finalité. Bien, Jérémie 29, 7, c'est une partie d'une lettre que Jérémie, resté à Jérusalem, va faire parvenir aux prisonniers juifs à Babylone. Est-ce que ça vous intéresse de connaître le début de la lettre que Dieu leur a d'abord dit? Ça vous intéresse? Ouf, parce que c'était la suite. Alors voici à partir du verset 4 de Jérémie 29. Il est dit ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des filles et des fils. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Waouh ! Ben, c'est un joli programme. Mais qu'est-ce que ça fait là ? En d'autres termes, pour reprendre ce qu'on avait déjà vu, et on le sait déjà ça, Dieu a dit aux Juifs, vous allez être ici pour un bon moment, alors intéressez-vous à ce que font les habitants, passez du temps avec eux, ne restez pas entre vous, recherchez leur bonheur, qu'ils disent que grâce à vous la vie est meilleure, car votre bonheur dépend du sien, on l'a compris. Mais avant, Dieu leur dit ceci, vous allez être ici pour un bon moment. Alors, prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille, de vos enfants. Développez une vie de famille qui fasse envie, qui vous réjouisse. Avant de vous occuper à rechercher le bien de la ville, recherchez d'abord le bien de votre femme. Avant de vouloir rechercher le bien de la ville, recherchez d'abord le bien de votre mari. Vous n'en avez pas ? Mariez-vous. Vous n'avez pas d'enfant ? Faites-en. Vous n'avez pas de beaux enfants ? Mariez-les. Vous n'avez pas de petits-enfants ? Bah, souvent, il n'y a pas besoin de demander. Mais faites-leur du bien. Faites-leur du bien. Priez pour eux. Soyez serviteurs et non pas maîtres. Et cette exhortation de Dieu à ce peuple ne diminuez pas, ni en nombre, ça c'est facile, ni en prière, ni en service. Ne diminuez pas. Mais comment aller parler de Dieu à des étrangers ? Comment prier pour le salut des autres alors qu'il se passe des tragédies dans notre propre maison ? Comment parler de Jésus alors qu'il y a des conflits sans fin ou des silences pesants dans notre propre foyer ? Comment annoncer la paix de Dieu alors qu'elle n'y est plus chez nous ? Franchement, vous avez déjà posé cette question ? C'est pourquoi Dieu parle d'abord de notre responsabilité à l'intérieur de nos familles, avant d'engager notre responsabilité à l'extérieur. Oui, Dieu veut le bien de la ville, mais Dieu veut le bien de votre famille aussi. Oui, Dieu veut la paix dans la ville, mais il veut la paix dans votre famille. Oui, Dieu veut le salut de la ville, mais il veut aussi d'abord le salut dans votre famille. Et qui de nous n'a pas un conjoint non chrétien ? Un fils ou une fille rétrograde ? Qui de nous dans son foyer n'a pas, ou dans sa famille, un beau-fils ou une belle-fille perdue ? Un parent qui ne vient plus au culte, qui nous fait souffrir ? Que de larmes versées, que de cris, que de portes qui claquent, que de prières aussi. Et là, on se dit, mais seul, j'y arrive pas. J'ai essayé de porter ça à bout de bras pendant tellement d'années et je n'y arrive plus. Et je capitule. Et je fais le beau au dehors. Et je fais des campagnes d'évangélisation. Alors que je capitule dans ma propre famille. Moi et ma maison, nous servirons ta famille, dit Dieu. Et alors que vous dites, ben, j'ai besoin d'aide, eh bien, que l'Église, que la maison de Dieu entende le cri de ceux qui ont besoin d'aide. Et faisons les choses ensemble. Moi et ma maison, te dit Dieu aujourd'hui, nous servirons ta famille. Nous voulons ton bonheur et celui de ta famille. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, nous pouvons réveiller un esprit de prière, non seulement pour la ville, et c'est bien, mais aussi et peut-être d'abord pour nos familles, pour nos enfants perdus. Et prions en famille, vous le faites. Prions en église, prions dans nos groupes de maison, prions tout seuls, mais prions pour que les ados que nous connaissons, qui ont côtoyé ces lieux et qui sont en ligne de la foi, puissent revenir à Dieu. Pour que les conjoints qui désertent leur foi puissent revenir à Dieu. Pour tous ceux que nous avons côtoyés ici et dont la destinée nous est devenue indifférente, puissent revenir à Dieu. Non pas parce que juste leur conjoint ou leurs parents prient, mais parce que la maison de Dieu recherche le bien de la maison de Dieu. Alors, on ne peut pas fermer les yeux. Et je me dis, mais on a trop souvent fermé les yeux sur la souffrance de nos frères et de nos sœurs en Christ. On dit, oui, mais ça, il porte sa croix, on a des belles phrases. Mais ce n'est pas juste. Est-ce que quand un membre souffre, est-ce que tout le corps souffre vraiment ? Parfois, je me le demande. On a tellement conditionné, cloisonné nos souffrances qu'on n'ose plus partager cette souffrance d'une famille qui a besoin d'aide. Alors ne fermons pas les yeux. Dieu nous dit aujourd'hui, moi et ma maison, nous ferons de grandes choses dans ta famille. Et ça c'est beau, ça c'est de l'espérance que Dieu nous donne. Et puis il nous dit aussi dans ta ville, mais ne brûlons pas les étapes. Le verset 6 est avant le verset 7 dans Jérémie 29. Et plutôt que d'aller prier à l'extérieur, prions aussi à l'intérieur. Et je vous propose peut-être de relire chez vous le psaume 126. On ne va pas le lire ici, mais il dit que Dieu transforme les larmes de tristesse en larmes de joie. Vous pleurez toujours, mais les émotions, elles sont différentes. Et on a trop pleuré des larmes de tristesse. On a trop semé en pleurant dans notre propre famille pour une récolte tellement maigre. Et s'il y a peu d'ouvriers pour la moisson à l'extérieur, il y a aussi peu d'ouvriers pour la moisson à l'intérieur. Et Dieu me dit, nous dit aujourd'hui, il est temps que l'Église regarde ce qui se passe dans cette maison, dans la maison de Dieu. Et si aujourd'hui vous êtes de ceux qui souffraient chez vous, qui avaient quelqu'un dans votre famille proche ou peut-être un peu plus éloigné, qui n'a jamais rencontré Jésus, qui n'a jamais fait le pas de se convertir ou qui s'est éloigné de Dieu, vous ne croyez pas que c'est d'abord à l'Église de prier pour ça? Vous ne croyez pas que c'est d'abord aujourd'hui que nous voulons le faire? Parce qu'avant le service Pâques, il y a le service de la maison de Dieu. Il y a ces gens, ces hommes et ces femmes, vous qui pleurez, qui vous lamentez, et qui aujourd'hui allez retrouver espoir parce que des frères et des sœurs vont vous aider. Ils ne vont pas prendre le relais, mais ils vont vous entourer. Et j'aimerais pas vous demander de vous avancer, mais j'aimerais vous dire, est-ce que chez vous, il y a quelqu'un comme ça? Est-ce qu'il y a un fils perdu, une fille rétrograde, un conjoint qui ne veut plus venir au culte, un parent qui délaisse la foi? Et vous priez et il n'y a rien qui se passe. Et vous priez, vous êtes découragé, vous avez arrêté de croire au miracle de Dieu dans votre famille. Vous n'êtes pas seul. Et aujourd'hui, on va prier les uns pour les autres.